différents pasteurs qui vont regarder un peu sa doctrine, sa vie aussi, son appel au ministère. Et ces pasteurs-là vont aussi poser des questions sur ses diverses positions théologiques ou pratiques aussi comme ouvrier. Il y a quelques mois, en début de mars, notre conseil de l'association voulait prendre des positions de plus en plus claires au sujet des signes et des miracles, dans quelle mesure ça se vivait encore aujourd'hui. Puis, on m'a demandé d'aller présenter ma position, puis une autre personne qui avait une position différente dans l'association présenter la sienne pour qu'ils s'amusent à placoter de ça. Et c'est ça que je voulais vous proposer ce soir, juste parler un peu de cette notion de signes et miracles pour aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire comme Pierre, qui va au temple avec la porte la belle, puis qui voit une personne impotente là, puis dire « Lève-toi et au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche! » C'est vrai, ça, c'est dans la Bible? Est-ce qu'on a le même Dieu que Pierre? Oui? C'est pas... pardon? Il y a le même nom? On a le même Dieu que Pierre? Pourquoi est-ce que la Bible a dit en quelque part Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Jésus faisait ça avec Pierre? Jésus, quand il était sur la terre, il a guéri des aveugles? C'est pas le même Dieu, ça? Il est toujours bon, il est toujours éternel, il peut agir de façon différente. Comme ça nous est quelquefois dit, l'absence de miracle dans une église manifeste une absence de puissance de Dieu dans l'église? Ah, ça fesse! Y a-t-il des miracles dans votre église? Non? Il n'y a pas de puissance? Oui! Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas de miracles? Est-ce qu'il y a encore des miracles? Oui, OK. Des délivrances miraculeuses. Peut-être on pourrait définir, c'est quoi un miracle? C'est quoi un miracle? Oui, Annie. Une intervention divine. Et j'ajouterai un autre mot, une intervention directe divine. Une intervention divine qui est directe. Oui. C'est un vrai miracle. C'est pas un miracle. C'est beau et ça dépasse notre capacité, mais c'est pas nécessairement une intervention directe, immédiate, à l'extérieur des lois naturelles dans la personne. Est-ce que Dieu fait encore des miracles? Des interventions directes? Est-ce qu'il en fait encore des interventions directes dans nos vies? Qu'est-ce qu'il y avait de différence alors avec le Nouveau Testament? Puis comme je dis Pierre, OK. Et pourquoi Pierre, lui, était capable, dans le sens il avait la capacité de faire des miracles, puis nous autres, on l'a pas. Et oui, il n'y a plus la même période, mais on est dans la période de l'Église pourtant. Oui, Céline, il y avait... Attends. Alors, quelle était la raison? Quelle est la raison pourquoi les miracles était par les mains des gens, la notion d'authentification. On va voir ça ce soir. Claude, il y a quelque chose qui... Et nous, est-ce qu'on devrait proscrire toute soirée de guérison? Est-ce que vous verriez mal ça, que, je sais pas moi, un mercredi soir, on invite les gens qui voudraient l'intervention de Dieu sur leur corps, on les invite ici, puis on prie simplement, particulièrement, pour la guérison des malades. Est-ce que ça serait à proscrire? Non. Il y en aurait beaucoup qui croient. Mais est-ce qu'on pourrait promettre, viens, tu vas sortir ceux qui boitent. Il va aller à Saint-Anne. On est plus sceptique à des choses qui dépassent nos capacités naturelles parce que c'est souvent arrangé avec le gars des vues. Alors, on disait, si on avait une soirée où on prie particulièrement pour les malades, est-ce que ça serait à proscrire? On a dit non. Et si on invitait Pasteur Pasteur Joe Blow à venir parce que par sa présence, se manifeste. Est-ce que l'on serait plus réticent? Qu'est-ce que l'on aurait ajouté dans notre raisonnement? Est-ce que Dieu peut faire des miracles et guérir? On est très clair. La réponse est oui. Ça serait quoi le problème avec inviter Pasteur Joe Blow à venir? Hein? On ne devrait pas avoir besoin de Joe Blow. Et Joe Blow n'est pas nécessairement le moyen, la personne dont, à travers laquelle Dieu fait le miracle. Oui, Gaëtan. Ah, mais je pensais, tantôt, ça fait peut-être 3 minutes. OK, mais on a dit qu'un miracle, c'était surnaturel, divin. Ah, OK, tu penses qu'il y a des fois des miracles qui sont faits par des êtres angéliques, démoniaques, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Mais qui nous dépassent. C'est vrai que des miracles peuvent être faits, ouais. Mais c'est toujours des interventions directes, c'est ça. Tu as raison, c'est pas toujours surnaturel, c'est ça. C'est pas toujours divin. Ça peut être malin. D'ailleurs, dans les derniers temps, ils vont faire descendre le feu du ciel. Claude, il y a quelque chose qui bouge encore. C'est correct? C'est ça? OK. Mais j'aimerais que tu continues au verset 19 et 20, par exemple. Okay, alors voici ceux qui vont continuer, ils vont faire telle chose, telle chose, telle chose. Et là, il précise, le Seigneur était avec eux autres, avec les miracles, et l'objectif, c'était confirmer. Mais mon argument ce soir va être, en général, les miracles étaient là pour confirmer l'authenticité. Puis je vais essayer de démontrer ça en particulier dans les Écritures. Est-ce qu'il y a encore des miracles aujourd'hui? Une personne qui est sauvée. Est-ce qu'on classifie ça comme un miracle? Oui, une intervention surnaturelle, puis là, on va ajouter divine dans la personne. Oui, Andy? Cinq, c'est ça? Jacques, ça fait ça. Et c'est intéressant que l'épître de Jacques a été écrite avant l'épître aux Corinthiens, où on a cette notion de miracle, de guérison. Et déjà, on a un écrit qui nous dit comment faire avec les malades, dans un sens. Jacques, chapitre 5, inviter les anciens de l'Église. Bien, j'aimerais qu'on se courbe devant Dieu, puis j'aimerais juste voir un peu cette notion de théologie biblique, historique des signes et des miracles pour voir aujourd'hui, est-ce qu'on devrait être complètement fermé à la notion de signes et de miracles, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut diriger particulièrement? Est-ce qu'il y a encore utilité des signes et des miracles aujourd'hui? Je pense que c'est ça que je voudrais clarifier autour de la parole. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui n'a pas besoin de notre permission pour agir de façon miraculeuse. Et Seigneur, merci parce que dans le passé, tu nous as placés dans un univers qui était ouvert à ton intervention puis qui demeure ouvert à ton intervention. Alors Seigneur, on veut te prier maintenant que tu nous diriges dans ta parole à nous montrer la place des signes et des miracles que tu as bien voulu placer dans les Écritures et que tu voudrais encore nous parler aujourd'hui. Seigneur, dirige-nous. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, on a parlé dans l'Ancien Testament, de la minute que la notion de miracle nous est présentée, ben, ce sont des interventions directes de Dieu, le déluge, la création, plusieurs éléments que l'on voit, ce sont des interventions directes surnaturelles de Dieu. Quand on parle de bons miracles, ça peut être d'ange. Et l'objectif des miracles, c'est pour être capable de détourner nos regards de l'humain pour être étonné de Dieu. On a dans la Genèse des miracles, puis après ça, on a une longue période où on ne voit pas de miracles dans l'Ancien Testament. Soudainement, on voit Moïse qui arrive. Et avec Moïse, on arrive à une nouvelle période de miracles. Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé Moïse à faire des miracles? À quoi servaient les miracles avec Moïse? Pourquoi c'est arrivé les miracles du temps de Moïse? C'était pour le peuple? Pour que les nations voient la puissance de Dieu, surtout en Égypte. Les plaies étaient des bras de fer entre les divinités d'Égypte et la personne de Dieu. Mais Moïse, il pouvait dire à Pharaon, « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve au désert. » Puis Pharaon, il disait, « No way, c'est qui ça l'Éternel pour que je laisse aller son peuple? » Alors Dieu, oui, Et pour montrer sa puissance et montrer que Moïse, c'était vraiment un envoyé de Dieu. Alors, Dieu dit à Moïse, quand tu vas te présenter Pharaon, puis il va dire, ou même devant les enfants d'Israël d'abord, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'envoie? Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? S'il te demande si c'est vraiment Dieu qui t'envoie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un signe, tu jettes ton bâton à terre, puis ça devient un serpent. Puis tu dis, hey! C'est un miracle, ça, par la main de Moïse, qui authentifie, qui est véritablement un envoyé de Dieu. Après Moïse, très peu de miracles. On retrouve Élie et Élisée. Et là, on retrouve dans l'Ancien Testament une autre période de miracles. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec Élie et Élisée? Le peuple est tout mêlé, oui. Il y a la loi qui est donnée par Moïse, il y a des sacrificateurs, il y a la monarchie qui est commencée. Puis, est-ce que ça garantit la fidélité à l'Éternel, ce système religieux-là? Non. Comme dit, les gens sont tout mêlés. Est-ce que Dieu a encore un messager autoritaire pour son peuple? Oui. Et qui seront ces messagers autoritaires pour le peuple? Des prophètes. Et là, Dieu introduit un nouveau groupe de personnes et il va utiliser des miracles pour confirmer l'authenticité de leur envoyé. Alors, Élie, Élisée sont le début de ces prophètes qui vont utiliser des signes miraculeux encore comme identification, authentification comme envoyé de Dieu. On arrive dans le Nouveau Testament et après Élie et Élisée, on voit encore très peu de miracles. Et on arrive au Nouveau Testament avec Jésus, puis là, oh boy, là, il y en a des miracles avec Jésus. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des miracles particulièrement avec Jésus? À quoi ils vont servir les miracles pour Jésus? Il va authentifier qu'il est véritablement le Messie, le Fils de Dieu. Et puis, il y a un autre élément où il y aura beaucoup de miracles dans le Nouveau Testament. Hein? Mais dans le Nouveau Testament, dans la personne de Jésus. Pourquoi avec la personne de Jésus, il y a beaucoup de miracles? D'une part, il y a l'authentification. D'autre part, Dieu se fait homme. Et l'adversaire essaie de contrer l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, il va avoir beaucoup d'oppression diabolique sur Jésus, dans les entourages de Jésus, et Jésus va intervenir. Mais Jésus va faire beaucoup de miracles, et ces miracles-là, en réalité, par exemple, l'évangile de Jean, il y a plusieurs miracles qui nous sont rassemblés, et Jean, il y a différents mots pour le mot miracle. Il y a dynamis, que l'on a en grec. Dynamis qui parle de dynamite, de force. Alors, un miracle, c'est souvent quelque chose de force extraordinaire. C'est une manifestation de puissance, de dynamite, miracle. C'est aussi teras, le mot grec pour dire prodige. Quelque chose de merveilleux. Et Jésus multiplie les pains pour 5000 hommes. Hey, c'est un miracle, c'est merveilleux. C'est pas qu'il y a un pain qui était immense, mais c'est merveilleux qu'est-ce qu'il fait. Et le mot miracle est aussi le mot séméion, qu'on emploie le mot signe. Dans l'évangile de Jean, quand le mot miracle arrive, c'était le premier miracle qu'il a fait à Cana pour montrer sa gloire. C'est toujours le mot séméion qui apparaît en Jean. Parce que, pour Jean, les miracles sont des signes qui nous amènent à voir la personne de Jésus, à authentifier Jésus. Donnez-moi des signes dans l'évangile de Jean que Jésus a fait. Il y a 7 signes dans l'évangile de Jean. Ressusciter Lazare. Est-ce que c'était juste pour manifester sa puissance? Pour que les gens tombent sur le dos pour dire « Hé, quel prodige! » Ou est-ce que c'était un signe? Lequel des trois on préfère quand il a ressuscité Lazare? Un signe. Comment est-ce que je sais que c'est un signe? Parce que tu me parles tout le temps. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il va enseigner autour de la résurrection de Lazare? Il va dire, je suis la résurrection et la vie. Alors, il y a la résurrection de Lazare, mais elle est un signe pour prouver une autre affaire sur sa personne. Je suis la résurrection et la vie. Un autre miracle qui arrive dans Jean. De Bartimée l'aveugle, je ne sais pas si c'est Bartimée qui est dans Jean, mais la guérison d'un aveugle. Jean chapitre 9, il y a un aveugle, c'est pas Bartimée, Bartimée est à Jéricho lui, mais un aveugle né qu'il guérit, Jean chapitre 9, et les gens voient le miracle de cet aveugle né. Et est-ce que est-ce que c'est particulièrement pour montrer la puissance? Est-ce que c'est particulièrement pour montrer l'étonnement, le prodige? Ou est-ce que ouvrir les yeux d'un aveugle, c'est pour un signe? C'est un signe qui montre Jésus. Qu'est-ce que Jésus va avoir comme signe dans Jean chapitre 9? Ou Jean chapitre 10 après? Il ouvre les yeux d'un aveugle, puis après ça, il dit, « Je suis la lumière du monde. » Il va multiplier les pains dans Jean chapitre 5. Puis après ça, il va dire, pourquoi vous courez après moi, vous mangez? Ne cherchez pas juste à manger, venez en relation. Je suis le pain de vie. Dans l'évangile de Jean, les signes, les miracles sont des signes pour authentifier, caractériser Jésus comme Messie. Et Pierre a employé le même principe. Regardez Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, verset 22. Pierre, c'est ce qu'il nous mentionne qui va arriver. Acte 2, 22. Quelqu'un peut le lire? OK. Alors, il y a Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait par les miracles, les prodiges, les signes? Ces trois mots-là reviennent souvent. Miracle, prodige, signe. C'était pourquoi Dieu a fait quoi? A rendu témoignage de Jésus. Les miracles, les signes, les prodiges étaient pour rendre témoignage de Jésus. Pierre commence à mentionner ça à la Pentecôte. On a mentionné tantôt Marc chapitre 16, l'Église primitive à la fin de l'Évangile de Jean, de Marc, elle a gardé ce témoignage-là. Les disciples, ils s'en allaient prêcher partout et il y avait des miracles qui pouvaient être mordus par des serpents puis pas mourir, prendre des boissons. On n'a pas d'exemple de ça dans le Nouveau Testament, mais je m'imagine que ça a dû arriver. Et là, il nous dit... Marc 16, 20, ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Les miracles étaient là pour confirmer l'authenticité des premiers croyants. Regardez dans Actes chapitre 4. L'Église a prié dans le même sens aussi, que Dieu fasse des miracles pour confirmer leur message. Actes 4, verset 29. À 31, le Sanhédrin avait dit aux apôtres de pas prêcher dans ce nom-là, et Pierre va dans la maison, je pense que c'est Pierre qui était là, après avoir retranché, ils allèrent, là, ils racontèrent ce que les principaux sacrificateurs, les anciens leur avaient dit, et on dit dans Acte 4, j'ai dit 29 à 31, quelqu'un peut lire ça? Les menaces, oui, Jacinthe. Pourquoi est-ce qu'il voulait qu'il y ait des miracles, des guérisons, des miracles et des prodiges? Pourquoi est-ce qu'il voulait ça? Pour avoir de l'honneur pour eux autres mêmes? Pardon? Pour qu'ils puissent annoncer Jésus, pour que les gens puissent comprendre que le message qu'ils avaient était le vrai message. Regardez un peu plus loin, 14, 3, dans Actes. Il va nous dire la même chose. Acte 14, 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'ils se fassent par leurs mains des prodiges et des miracles. Pourquoi est-ce qu'il y avait des prodiges et des miracles? À quoi servaient les prodiges et les miracles dans ce verset-là encore? Oui, eux, ils parlaient avec assurance et Dieu permettait qu'il y ait par leurs mains il y ait des prodiges et des miracles parce que ça rendait témoignage à la parole de la grâce de Dieu. C'était encore des miracles dans le but de rendre témoignage, d'authentifier le message des apôtres. Les épîtres ont fait la même chose. Regardez Romains chapitre 15. Versets 18 et 19, Paul a confirmé lui aussi que les miracles servaient à l'authentification de la crédibilité du messager. Il a affirmé que les signes, les prodiges, les miracles qui éclataient dans son ministère étaient les preuves de son apostolat. C'était la preuve qu'il était un apôtre. Regardez Romains 15, versets 18-19. Romains 15... Quelqu'un peut le lire, 18-19 de Romains 15. Oui, Claude. me suis fait un honneur de prêcher le Christ partout. Il dit, Christ a fait des choses à travers moi, et c'était dans quel but? Dans quel but est-ce que Christ faisait des miracles à travers Paul? Pour amener les païens à l'obéissance, pour confirmer le message de l'Évangile. C'était toujours cette notion-là. 2 Corinthiens, un peu plus loin, 2 Corinthiens 12-12, là, il va dire clairement ces paroles-là. Là, il va dire les preuves de mon apostolat, les preuves que je suis un envoyé de Dieu. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges, des miracles. Ça, c'est ce que Paul va rappeler. Je suis un apôtre, je suis un envoyé, et comment je peux prouver que je suis un envoyé? Les miracles que Dieu a agi à travers. Regardez finalement Hébreux chapitre 2, verset 4. On va avoir encore cette notion-là de signes, prodiges, miracles, avec cette même notion-là. Hébreux 2, 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et que dit le verset 4? Quelqu'un peut lire le verset 4? Dieu appuyait leur témoignage. De quelle manière? Signes, miracles, des prodiges. Encore, les signes et les miracles sont pour authentifier. Et quand on arrive après ça dans 1 Corinthiens, là, on a une église qui va parler beaucoup de dons, puis d'exercices de dons, puis qui va vouloir utiliser des miracles. Et cette église-là qui vivait des divisions, des ministères qui étaient orientés par des perspectives individualistes, il y avait diverses divisions, divers désordres d'ordre moral. Et entre autres, chez les Corinthiens, dans leurs difficultés, il y avait une difficulté à déterminer la nature puis le bon usage des dons spirituels. Et là, Paul intervient, comme on a lu dans 1 Corinthiens 13, 1 Corinthiens 12, 13, 14, Paul va venir intervenir pour présenter, ben c'est quoi la nature, puis c'est quoi le but des dons. Et il va clarifier justement hein, la supériorité de l'amour, puis il va clarifier au chapitre 14, la supériorité, le don spirituel par excellence étant la prophétie, plutôt que d'autres dons comme les miracles ou les langues. Chez les Corinthiens, ils étaient vraiment conscients qu'il y avait des activités spirituelles. Tournez dans 1 Corinthiens 12, 1. Ils étaient conscients avant les Corinthiens, avant leur conversion, ils savaient qu'il y avait des activités spirituelles. On a traduit dans 1 Corinthiens 12, 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, le mot grec, c'est, il n'y a pas le mot don dedans, il y a juste le mot pneumaticon qui veut dire les choses spirituelles, les activités spirituelles. Les Corinthiens étaient bien conscients d'activités spirituelles dans leur culte païen. C'était pas juste des choses qui venaient de Dieu. Il dit au verset 2, « Vous savez que lorsque vous étiez païens, lorsque vous étiez non convertis, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. » Il y avait déjà de l'activité spirituelle avant qu'ils soient convertis. Et ils se laissaient, ces cultes d'idoles muettes employaient des manifestations corporelles, des manifestations verbales, extatiques, puis les participants y étaient conduits. Et on pourrait peut-être dire possédés même par des êtres surnaturels. Et quand ces gens-là avaient ces manifestations spirituelles avant leur vie chrétienne, quand ils sont devenus chrétiens, bien, ils ont voulu christianiser dans un sens ces activités spirituelles dans l'Église. Et là, Paul va commencer à parler des dons, puis va dire « Whoop, il y a différents critères pour clarifier la nature des dons spirituels. Le fait, est-ce que Christ est Seigneur? Si Christ n'est pas Seigneur, ben ça vient pas de l'Esprit de Dieu. Il va parler de la diversité des dons, dans les versets 4 à 6, de l'utilité des dons, de l'unité entre les dons et de l'échelle de valeur des dons. Il va dire les dons, ils n'ont pas toutes la même valeur. Regardez dans le chapitre 12, versets 27 à 31 de 1 Corinthiens. Il va mentionner que les dons n'ont pas toutes la même utilité, ils n'ont pas toutes la même valeur. Et dans l'Église, ben là, il va falloir chercher des dons qui sont utiles pour le plus grand nombre. Puis là, il va parler particulièrement de la prophétie. Il va parler qu'il y aura des dons de fondement, puis des dons qui vont durer pour tout le temps. 1 Corinthiens 12, et versets 27 à 31. Quelqu'un peut lire ça? Oui, Paul. Qui va être la voix de l'amour. On est tout le corps de Christ, on est tous des membres, mais Dieu a placé un ordre dans les dons. Qu'est-ce qu'il a placé comme don en premier? Apôtre. Est-ce qu'on a encore des apôtres? Non? Alors, dans l'ordre des dons, il a placé ses envoyés particuliers, inspirés, les apôtres. Deuxièmement, il a employé des prophètes. Est-ce qu'on a encore des prophètes aujourd'hui? Et ça, on va le temps. Ouais. Est-ce qu'on a encore des prophètes aujourd'hui? Dans quel sens sont des prophètes aujourd'hui? Des annonceurs, des prédicateurs? Oui? Des porte-paroles de Dieu, ça traduit bien. La notion, c'est est-ce que ces porte-paroles sont inspiré ou non? Est-ce que dans l'Église, quelqu'un pourrait dire le dimanche soir, Dieu m'a montré que dans l'Église, il y a trois couples qui ont besoin de régler leurs difficultés parce que si ça ne vient pas, Dieu m'a montré qu'il enverrait un jugement dans l'Église. Et Dieu m'a dit que si ces trois couples-là allaient mieux, il enverrait un réveil dans l'Église. Dieu m'a montré ça. C'est une prophétie. Il serait un porte-parole de Dieu. Puis on fait deux différences. Là, tu as employé le mot « don de prophétie ». Ça, c'est un don. Est-ce que celui qui a le don de prophétie, il est automatiquement un prophète, une personne? Dieu a donné des apôtres, des prophètes, et Dieu a donné des gens avec des dons de prophétie. Mais c'est intéressant, là. Il n'y avait pas avantage. OK. Le prophète de l'Ancien Testament était inspiré. On a lu tantôt dans 1 Corinthiens 13, le verset 8. L'amour ne périt jamais. Les prophéties, qu'est-ce que ça dit? Les prophéties seront abolies. En quoi est-ce qu'elles sont abolies? C'est un futur qui va dire qu'elles vont être rendues inopérantes, les prophéties. pourquoi est-ce que les prophéties vont être rendues inopérantes? On n'a plus rien à ajouter, on a la révélation complète, Bertrand monte sa Bible, on a la Bible. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus de prophètes aujourd'hui? C'est ça la question. Au sens de de porte-parole, et là je vais ajouter un mot, porte-parole inspirée de Dieu, on n'en a plus. Les prophéties ont cessé parce que j'ai le contenu complet de la parole de Dieu, de ce que Dieu veut me communiquer. Dans le sens, parce qu'après ça, dans le chapitre 14, il va nous dire, verset 14:3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Est-ce qu'on a ça aujourd'hui? Des gens qui édifient, qui exhortent, qui consolent, qui sont des porte-paroles. Est-ce que c'est juste des pasteurs ou il peut y avoir des croyants qui sont... On peut tous être des prophètes dans un sens, des gens qui prophétisent. Mais est-ce que c'est l'inspiration? Ou est-ce que... notre inspiration, c'est la... Alors, dans un sens, il n'y a rien de nouveau. Et ça découle plutôt de, je vais employer le mot, illumination. Je lis la parole de Dieu. Je me nourris d'elle. J'en retire de l'enseignement. Et je peux la communiquer à d'autres. Et par conséquent, ça vient de Dieu. Mais c'est pas par inspiration directe, mais c'est par illumination des Écritures. Et quand un prophète parle, est-ce que automatiquement il est... On le reçoit, puis on l'accueille, puis tout ce qu'il dit, c'est automatiquement vrai. Le prophète de l'Ancien Testament, et où le prophète qui était un don de fondement, inspiré, on le questionnait pas, mais Corinthiens, dans l'église de Corinthe, Paul il va dire s'il y a des prophètes, que quelqu'un prophétise, puis que les autres jugent, évaluent. Qu'est-ce qui évalue? La prophétie. Parce que les prophètes se sont soumis à l'esprit des prophètes. Alors, dans l'Église, la prophétie, elle doit être examinée pour s'assurer si elle est selon l'analogie de la foi. Et après ça, je regarde dans les lettres pastorales et on ne fait plus mention des prophètes. Alors, la Bible a dit dans 13:8 que les prophéties vont être abolies. Ils vont être rendus inopérants. L'aspect inspiration des prophètes a disparu. Et maintenant, la notion de prophétie, c'est plus ce qui découle de l'illumination. Il dit aussi, dans 13:8, les langues vont cesser. Et là, c'est un... en grec, c'est un futur moyen. Ça veut dire ils vont venir à cesser par eux-mêmes. Ils vont cesser d'elles-mêmes, ils vont cesser automatiquement d'elles-mêmes, nous dit un spécialiste de la langue, là, A.T. Robertson. Il nous dit que ce moyen-là nous manifeste que les langues vont cesser graduellement. Parce que les langues, la diversité des langues, était pourquoi dans le Nouveau Testament? Ou on va le voir dans Corinthiens. Dans Corinthiens, il y avait deux sortes de langues. Comme je pense que je vous l'ai déjà dit, quand je lis le Corinthiens puis que je vois langue podes, ça parlait de ce langage extatique qui venait du monde païen puis qu'on voulait mettre dans l'Église. Mais il y a aussi la notion du don spirituel de parler diverses langues. Ça, c'est un don qui était placé aussi à Corinthe et qui avec le temps comme il nous mentionne dans 1 Corinthiens 13:8, ça va arrêter par lui-même, ça va cesser. Mais à quoi servait la diversité des langues dans Corinthiens ou dans le livre des Actes, parce qu'on va le voir dans le livre des Actes aussi. Oui. Un signe aux Juifs. On trouve ça dans la Bible, ça? Oui. Alors, c'est sûr que c'était une diversité de langues, mais c'était quand même un don de parler diverses langues qui n'était pas donné à tout le monde. Regardez 1 Corinthiens 14, 21. la diversité des langues était encore une fois une étape dans le développement du plan de Dieu dans l'histoire. Comment est-ce que les Juifs pouvaient être confirmés que l'Église des païens venait vraiment de Dieu? Ils pouvaient parler leur langue. Ils parlaient diverses langues, et ça, c'est une prophétie de l'Ancien Testament. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 21. Quelqu'un peut le lire? Oui, Jacinthe? Verset 22. Alors, il compare, il dit, Dieu a dit qu'il allait parler aux Juifs à travers des gens qui parlaient diverses langues, par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Alors, il dit, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants juifs en particulier. Et la prophétie, elle, elle est utile. Elle est utile dans l'Église. Dieu a promis d'utiliser des hommes aux langues étrangères pour parler à son peuple. Ça, il l'avait prophétisé dans Ésaïe, chapitre 28, les versets 10 et 11. Les langues avaient une valeur, je dirais, judiciaire de jugement sur Israël. Voyez que j'ai donné à d'autres nations la grâce du salut, la grâce de communiquer ma parole à d'autres personnes. Ça devait juger, condamner les Juifs, les amener à la jalousie, à dire, hey, c'est vrai, ils ont reçu le Dieu qui nous appartient, les amener à croire. Et il y avait aussi une valeur d'authentification pour les personnes qui étaient ouvertes à l'Évangile, particulièrement les Juifs qui étaient ouvertes à l'Évangile, quand ils voyaient un païen parler, avoir le don de diversité de langues, ça l'invitait, lui, à croire. Alors, le don des langues était un signe pour les non-croyants juifs afin qu'ils acceptent l'authenticité du message des apôtres. Et c'est particulièrement présenté dans Corinthiens. Quand on lit le livre des Actes, nulle part il fait référence à ces expériences extatiques du parler en langue que les Corinthiens avaient en tête. Je voulais parler de langue, de fondement. Dieu a donné des dons personnels, comme nous, on a des dons spirituels personnels, et Dieu, au départ de l'Église, il avait donné des dons de fondement, apôtres, prophètes, et à eux, il leur a donné d'authentifier leur message par des miracles ou des signes particuliers. Alors, personnellement, aujourd'hui, je doute de la pertinence puis de l'utilité des signes, des miracles ou de parler en langue extatique pour l'Église d'aujourd'hui. On n'est pas en train, en disant ça, de dire Dieu ne peut pas en faire, Dieu peut toujours faire des miracles directement, mais de dire Dieu va se servir d'une personne pour manifester des miracles particuliers. Dieu n'a plus besoin d'authentifier son message par des personnes en particulier. Nous avons son message clairement présenté devant nous. Les signes et les miracles qui ont été présents juste à trois périodes bien définies dans la Bible. Comme j'ai mentionné, la période de Moïse, la période d'Élisée, d'Élie, puis la période de Jésus puis des apôtres. Dans chacune de ces périodes-là, les miracles ils servaient d'authentification du messager puis de confirmation du message. Et dans la seule épître où il est question de signes et de miracles, dans 1 Corinthiens, ben les signes et les miracles, à cause de leur caractère spectaculaire, Paul est obligé de dealer avec ça parce qu'ils ouvraient la porte à toutes sortes de contrefactions, de toutes sortes d'orgueil spirituel, de toutes sortes d'individualisme, au détriment de l'édification de la communauté. C'est pour ça que Paul va dire, regarde, je vais vous montrer la chose la meilleure, c'est exprimer vos dons à travers l'amour. Et après ça, dans le chapitre 14, il va dire, exprimer vos dons particulièrement par la prophétie, parce que là, ça va être utile pour l'utilité commune. plutôt que les miracles, plutôt que les guérisons, plutôt que les langues. C'est intéressant aussi que les derniers écrits de Paul ou de Pierre sont totalement silencieux en ce qui concerne les signes et les miracles. Regardez par exemple 1 Pierre 4, 10 et 11. Où là, il va nous parler des dons. Pierre va nous parler des dons. Et il n'y aura pas de connotation avec signes et miracles en particulier. 1 Pierre 4, 10, vous connaissez comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, pas nécessairement un prophète par-dessus qui parle lui-même directement au nom de Dieu, qu'il annonce les oracles, les choses que Dieu a déjà présentées. J'aime bien Hébreu, ça dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans les derniers temps, y a envoyé son meilleur, y a envoyé Jésus. » Et dans les Écritures, on a le message de Jésus. On n'a pas besoin d'autres confirmations supplémentaires, d'autres révélations supplémentaires pour confirmer le message de Jésus. Son message, sa mort et sa résurrection ont confirmé. Par conséquent, comme je dis, je doute beaucoup de la pertinence et de l'utilité des signes, des miracles, des paroles, le don de langue extatique. Quant au don de parler diverses langues, si Dieu voulait donner ce don-là à quelqu'un, en quelque part dans le monde, pour communiquer sa parole, puis pour authentifier le messager, ben, je pense qu'il pourrait le faire. Et il y aurait simplement à suivre les procédures, les modalités qui sont placées dans 1 Corinthiens 14, qu'il y en ait un qui parle à la fois, puis qu'il y ait quelqu'un qui puisse le traduire, de sorte que ça soit utile pour tout le monde. Par conséquent, je fais partie de ceux qui adoptent une position dont on dit cessationniste, en disant les dons, les miracles, les signes miraculeux ont cessé graduellement, avec la mort des apôtres, avec l'Église primitive, de sorte qu'aujourd'hui, on n'a pas à dire si Dieu est vivant encore aujourd'hui dans votre Église, il faut absolument qu'il y ait des signes, qu'il y ait des prophéties qui annoncent des choses particulières, qu'il y ait des signes, qu'il y ait des miracles. Autrement, vous êtes une Église qui n'est plus en contact avec l'Ancien Testament, avec la Nouvelle Alliance, avec le Nouveau Testament. Je ne vois pas ce besoin-là. Je ne pense pas qu'on manque de rien, sinon que de manifester le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, ça, c'est évident, et ça doit se manifester dans l'Église. Et ce n'est pas par des signes, par des miracles, c'est comment qu'il se manifeste. L'amour, Galates 5, 22, la joie, la paix, la maîtrise de soi, la bonté, la bénignité, ça manifeste la puissance de l'Esprit parmi nous, quand ça, c'est vrai. Bien plus que des signes et des miracles. Oui, oui, Romains, comme on n'a pas regardé 1 Pierre 4, Romains 12, 1 Corinthiens 12 à 14, on croit vraiment aux dons spirituels. Chaque croyant a reçu un don spirituel. Mais ces dons spirituels-là ne sont pas d'ordre miraculeux dans le sens d'émerveillement, mais sont des dons pour l'édification commune. Comme? Oui. Oui. Mais quand un non-croyant, j'ai fait moi-même avant d'être converti, mis Dieu au défi, puis Dieu dans sa grâce a répondu de façon miraculeuse. Mais la notion, est-ce qu'il y avait besoin d'un intermédiaire? Quand on parle de dons, de signes, ceux qui ne sont pas cessationnistes, ils croient que Dieu a investi dans des personnes des dons de miracles, des dons de connaissances, où la personne va dire, Dieu m'a mis à cœur, Simon, que tu ne retournes pas par telle rue parce que j'ai vu une camionnette rouge qui va te frapper. Alors, va pas là. Dieu me l'a montré. Et j'ai une parole de connaissance pour toi. J'ai entendu des choses comme ça, là. Et ça fait pas des années de ça, là. Ou un croyant dire, j'ai vu ça, fais attention, c'est ça. Et là, ils ont mis prémonition, puis tout. Alors, cette notion de don-là, par l'intermédiaire d'une personne, on n'y croit pas. Mais est-ce que Dieu peut agir directement? Est-ce que moi, je peux, dans un sens, crier à Dieu puis demander une intervention directe, surnaturelle? C'est possible. Mais on n'attribuera pas à une personne ce don particulier d'être l'instrument de Dieu pour manifester des miracles, des guérisons, des paroles de connaissance, des paroles de prophétie pour le futur. Je crois que ça, on n'en a plus besoin. On a les principes dans les Écritures. Oui, David? Je pense qu'on va aller en dessous à ce moment-là. Pour moi, la notion, c'est quelle est l'autorité sur laquelle je me base pour agir dans l'Église. Et si pour une Église, l'autorité sur laquelle j'agis devient l'expérience, je vais avoir de la misère à m'attacher très fort avec ça. Il y a des mouvements qui sont pas cessationnistes, puis qu'en même temps, ils sont quand même très basés sur les Écritures. Ils veulent rien accepter. Qui est plus large que la base des Écritures. Je pense que là, c'est pas des condamnés. Dieu. Moi, je suis différent, je ne marche pas avec ça, mais je ne condamnerai pas. Mais il y en a d'autres qui vont dire les Écritures ne sont pas fermées. Il y a encore des nouveaux prophètes. Il y a encore la révélation qui s'ajoute. Ça, je pense, cette notion-là, je dois dire non. Parce que souvent, ça va venir contredire. Mais il y a des personnes qui vont dire, comme j'ai dit, je ne veux pas ajouter aux Écritures, mais Dieu m'a dit telle chose. Puis ça ne contredit pas les Écritures. Est-ce que je dois absolument me séparer? Je dois dire, fais attention à ce que l'expérience ne vienne pas par-dessus les Écritures. Mais je ne suis pas sûr si automatiquement, comme je dis, il y a des gens dans nos milieux évangéliques qui acceptent des paroles de sagesse. Comme j'ai mentionné, Dieu m'a mentionné qu'il y avait un problème dans l'Église, puis que ça devrait être réglé, puis c'est ce qui m'empêche d'avoir un réveil. Dieu a mis ça sur mon cœur. Et des fois, moi, j'ai de la misère à voir entre la notion d'un don, d'une parole de connaissance, et le fardeau que l'on a sur le cœur. L'Esprit de Dieu peut placer des fardeaux sur notre cœur, puis des fois, ces fardeaux-là sont assez forts que je peux le partager à d'autres personnes. Dieu me met le fardeau à cœur de vous dire cette chose-là. Mais je ne dirais pas, hey, Dieu m'a dit, puis c'est la parole de Dieu maintenant. Je peux avoir l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs, puis il met des fardeaux sur nos cœurs. Ça, je pense qu'on peut le mentionner. Et des fois, il y a la ligne. Pour des personnes, ça va être, oh, j'ai entendu de Dieu, et pour moi, je vais entendre ça, puis je vais dire, ben, peut-être c'est simplement l'Esprit de Dieu qui t'a mis un fardeau sur ton cœur pour nous communiquer. Puis ça, c'est à mon avis, ça, c'est correct. C'est juste la notion d'autorité que j'ai avec ça. Alors, je vais le confirmer avec les Écritures. Si c'est un prophète, est-ce que c'est selon les Écritures? Puis, si c'est selon les Écritures, je peux répondre positivement au fait que Dieu a placé un fardeau sur le cœur par l'Esprit, sans que ça soit nécessairement inspiré, puis il faut que je le suive. Il y avait d'autres commentaires? Ça a-tu répondu? C'est dur de travailler. Il y a des gens vraiment qui voient de nouvelles révélations complètement, là. Et ça, je pense que c'est dangereux. Là, il n'y a pas de fondement. Oui. C'est ça. Alors, les non-cessationnistes, ils vont dire souvent que c'est ça, le livre n'est pas fermé. Le livre est encore ouvert. Alors, Dieu se sert encore de personnes pour communiquer son message inspiré. Plutôt que, comme il dit, l'illumination de mon cœur, que j'étudie les Écritures, Dieu place des fardeaux sur mon cœur, je le communique. Ça, c'est par illumination. Mais il y en a d'autres qui ont dit, j'ai pas besoin de tout ça. Dieu me parle directement, puis je communique un message qui est inspiré. Ça, c'est dangereux. Et là, souvent, c'est contraire aux Écritures. Mais c'est de clarifier, je pense qu'il faut, il faut sortir de la notion de ces soi-disant dons-là, puis regarder quelle est l'autorité spirituelle dans leur vie. Et si pour eux, l'autorité spirituelle dans leur vie, c'est l'expérience charismatique qu'ils ont reçue, je ne peux pas m'attacher à ces gens-là. Ce n'est pas juste une question d'un faux frère, ils ont un fondement qui est différent du mien. Qui est l'expérience. Les croyants évangéliques, ils peuvent avoir des expériences spirituelles différentes, mais tous doivent affirmer l'inhérence des Écritures, le fait que les Écritures sont complètes, puis qu'elles sont suffisantes. Quand ça, c'est pas là, ça peut aller dans n'importe quelle direction, puis là, je ne peux pas aller très loin parce que on n'arrive jamais à l'autorité. C'est toujours Dieu m'a dit, Dieu, j'ai vu ça, j'ai senti ça, puis là, ça, c'est pas un fondement sur lequel on peut avancer parce qu'on ne peut jamais dire aider les gens à dire voici ce que la Bible dit parce que ce n'est plus une autorité. C'est leur quand l'expérience est par-dessus l'inspiration, je ne veux pas m'attacher à ça. Je vais m'attacher à ce qui est écrit fondamentalement. Et c'est ça. Dieu, par exemple, continue à parler à nos cœurs par son esprit. Et je pense qu'il faut avoir la liberté d'exprimer ce que Dieu place sur nos cœurs sans pour autant dire « j'ai une parole inspirée de Dieu ». Mais je peux dire « Dieu m'a mis à cœur différentes choses que je voudrais vous communiquer et les frères devraient juger ces fardeaux que Dieu place sur notre cœur ». Et si j'accepte cette œuvre de l'Esprit de Dieu dans mon cœur, ben des fois, je suis pas tellement loin de quelqu'un qui est pas sensationniste. Parce que lui aussi, mais lui, il va aller plus loin, il va dire vraiment, Dieu m'a dit, puis c'est autoritaire. C'est ça que j'ai que moi, je vais dire non, mais l'Esprit de Dieu travaille encore dans nos vies. Puis c'est ça que je veux quand même clarifier. Il peut me mettre des fardeaux, puis je peux le partager à l'Église, ça. Puis les croyants devraient entendre ça et juger ça. J'ai-tu mêlé plus que d'autres choses? Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta parole. C'est sur elle qu'on veut se fier, qu'on veut se confier. Et Seigneur Dieu, on veut te remercier pour ton esprit aussi que t'as placé en nous. Et on ne veut pas le mettre en boîte, lui non plus. On voudrait, Seigneur, qu'il agisse avec puissance dans nos cœurs. Et que souvent, Seigneur, lorsqu'il nous met à cœur d'intervenir avec les frères, avec les sœurs, Seigneur, qu'on ait la liberté de s'exhorter, de s'édifier, de s'encourager les uns les autres, parce que tu as placé ces fardeaux-là sur notre cœur. Alors, Seigneur, bénis ton Église encore, donne-nous de vivre pour toi, et donne-nous, Seigneur, de tisser des liens par l'Esprit, les uns avec les autres, pour ta gloire, pour notre édification. Au nom de Jésus. Amen.